Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio Primitive, et bienvenue dans cette émission spéciale. Vous le savez forcément, cette semaine, on célébrait les luttes des femmes pour leurs droits, des luttes toujours en cours, des droits sans cesse à acquérir pour se faire respecter dans notre société. Oui, rien que ça. Radio Primitive vous propose aujourd'hui une émission spéciale qui va revenir sur des actualités locales ou des productions de chez nous en lien avec ces luttes féministes. Et nous allons commencer d'abord par deux structures qui sont arrivées chez nous à Reims cette année. Le CAAP et la Maison des Femmes. Nous reviendrons ensuite sur une thématique plus récente, l'interview de la sociologue Sophie Divet en lien avec la projection du documentaire Debout les Femmes à Reims en cette semaine de 8 mars. Et enfin, nous terminerons avec Francine et son émission À quoi ça rime, qui revient pour ce mois de mars sur l'histoire de sa famille et son histoire de femme. Un programme donc détaillant les féminismes locaux, divers mais bien présents. Et je vous propose de débuter avec une première interview. Le 7 mars dernier, le CAAPP, un service qui accompagne les personnes qui se prostituent en termes de prévention des risques et d'écoute et d'accueil, inaugurait son local à Reims. L'occasion de vous repasser cette interview du CAAP qui vous présente leurs différents domaines d'intervention. C'est tout de suite sur Radio Primitive.
Donc bonjour, moi c'est Mandy Laurent, je suis travailleuse sociale au sein de l'association et donc je travaille ici depuis 4 ans et demi maintenant.
Et moi c'est Roxane Calura, donc je suis nouvelle sur le poste du CAP, je suis aussi travailleuse sociale. Je suis arrivée au mois de novembre et donc je suis en binôme avec Mandy.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire le CAP déjà ?
Alors le CAP, ça signifie tout simplement le centre d'accueil et d'accompagnement pour les personnes se prostituant. Alors cette association, elle existe dans les Ardennes et la Marne. Concrètement, vraiment, elle vit et s'appelle le CAP depuis 4 ans et demi, depuis que j'ai pris le poste. Mais précédemment, elle était gérée par des personnes qui travaillent au CARU des Ardennes et qui venaient travailler en rue une fois par semaine auprès des personnes qui se prostituent en rue à Reims uniquement. Et donc, depuis 4 ans et demi, on va dire maintenant, il y a eu des financements pour un poste. Donc, c'est là que je suis arrivée. Et maintenant, on intervient beaucoup plus physiquement et beaucoup plus souvent dans la Marne. Et que depuis que Roxane est arrivée, on a pu ouvrir un local.
Oui, local qui se trouve pas très loin de la cartonnerie, ici à Reims. Ce qui vous donne l'opportunité de faire quoi, en fait ? Ce local, qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ça nous donne l'opportunité de pouvoir accueillir les femmes qui auraient besoin de conseils, de matériel, comme des préservatifs ou des produits d'hygiène. Et donc, du coup, on a vraiment un endroit où on peut les accueillir, où on peut les écouter et leur proposer un café ou n'importe quoi dont elles pourraient avoir besoin.
À l'abri, parce que au final, votre action jusque l'obtention de ce local se faisait en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous alliez au contact justement de ces personnes qui se prostituent ? Comment ça se passe en fait, tout simplement ?
Alors, comment ça se passe ? Jusque maintenant, on intervenait deux fois par semaine en camping-car, on faisait des maraudes. Donc, c'est ce qu'on fait toujours. Donc, le mercredi, on est en camping-car deux fins de soirée, on va dire à partir de 17h jusque vers 11h, voire plus si on trouve des gens qui ont besoin de nous en rue. Et le vendredi, on fait le même principe, sauf qu'on travaille la journée et on va auprès des personnes qui se prostituent en rue la journée. Et depuis qu'on a ce local, on peut accueillir les personnes au sein du local, comme vient de le dire Roxane, en dehors des maraudes et en dehors des temps de travail des personnes qui se prostituent.
Je suppose aussi que ça permet encore plus de préserver l'anonymat des gens que de les recevoir dans des locaux où ils sont à l'abri, où il n'y a pas le regard peut-être des autres, même si à cette heure-là, peut-être qu'à Reims, le regard est modéré.
Oui, effectivement, déjà, là, vous voyez, notre local, c'est complètement anonymisé, il n'y a rien qui est inscrit sur la devanture, et le camion avec lequel on se déplace, c'est pareil, tout est anonymisé, c'est un camion blanc où les femmes et les hommes qu'on rencontre peuvent venir pour diverses raisons, du matériel de réduction des risques sexuels, donc c'est tout le matériel qu'on peut donner pour que les personnes travaillent dans des conditions safe, comme l'a dit Roxane, un café, une soupe, parler d'une problématique particulière, se poser tout simplement, parce que comme vous disiez, en rue, quand on est sous la pluie et qu'on travaille depuis 2, 3, 4 heures, voilà, les gens, c'est un petit peu leur petite pause aussi, elles viennent dans le camion, elles se posent 5 minutes et elles retournent travailler. Donc voilà, l'anonymat, que ce soit dans la rue ou dans le local, il est garanti, en tout cas... on l'espère.
Et ce que je voulais vous demander justement, c'est que les activités de prostitution qui sont effectuées par des travailleurs, travailleuses du sexe, c'est des activités qui sont bien souvent cachées quand même, qu'on voit, enfin, parfois on les constate, mais c'est un domaine qui reste du domaine plutôt du caché et du privé. Vous qui faites ce travail-là depuis 4 ans maintenant, c'est quoi l'état des lieux un peu de la prostitution à Reims? Est-ce que il y a beaucoup de monde qui se prostitue? Est-ce que c'est une ville où on est, enfin je sais pas s'il existe des moyennes, ou quel type de difficultés les personnes que vous rencontrez rencontrent en fait?
Déjà, l'état des lieux, on peut pas faire un état des lieux, rien n'est comparable, toutes les villes sont différentes, tout, enfin voilà. La spécificité de notre travail, en tout cas sur Reims, c'est pas la même dans d'autres villes, j'ai bien pu le constater auprès d'autres collègues. Il y a différentes formes de prostitution, comme partout, hein, évidemment. Il y a la prostitution de rue, il y a la prostitution sur Internet, il y a la prostitution étudiante, il y a la prostitution cachée, enfin voilà, il y a les réseaux, il y a les gens qui travaillent pour eux-mêmes, il y a des gens qui sont exploités. Il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Je peux pas vous donner une moyenne, il y a pas de moyenne, on travaille avec l'humain, il y a pas de moyenne facile à établir. Les difficultés, c'est essentiellement des difficultés financières, hein, comme vous en doutez. La plupart des gens, c'est pas un choix délibéré de se prostituer, et que la première motivation, c'est la motivation financière. En tout cas, c'est ce qu'on constate, mais c'est surtout ce qu'on nous dit. Hein. Ouais. Nous, on n'est pas là pour interpréter, mais selon les dires des personnes qu'on rencontre, la motivation essentielle et première, c'est l'aspect financier.
Vous devez intervenir qu'auprès des personnes qui se prostituent donc dans la rue. Si vous passiez en maraude, vous aviez quand même accès à ces personnes qui exercent des formes de prostitution numérique, par exemple. Comment vous entrez en contact avec ces personnes-là?
Alors, nous, on a ce qu'on appelle un SMS qui va décrire notre association. Et en fait, on recherche les personnes prostituées sur Internet, donc que ce soit... sur des sites spécialisés ou sur Instagram, les réseaux sociaux. Et une fois qu'on les a trouvés, on envoie ce SMS, une petite carte descriptive de nos missions, et si la personne est intéressée, elle nous contacte. On peut lui envoyer des kits escortes, donc avec tout le nécessaire pour réduire les risques et se protéger. Et si elle a besoin d'autre chose, elle aura aussi notre numéro.
Radio Primitive.
On retourne auprès des travailleuses sociales du CAAPP qui accompagnent les personnes qui se prostituent à Reims et en Champagne-Ardenne. Dans cette période de crise sanitaire, je leur ai demandé si leur activité avait changé, si cela avait eu des impacts sur les personnes se prostituant ici et si le CAAP avait pu leur apporter des solutions.
Alors comme solution, je sais pas, peut-être comme réponse déjà. Alors... Effectivement, on disait que la crise sanitaire a impacté tout un chacun, mais pour les travailleuses du sexe, les personnes qui travaillent dans la rue, en tout cas, et aussi les personnes qui travaillent en hôtel ou chez elles, ou enfin voilà, elles ont eu un arrêt immédiat de leur activité rémunératrice. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans aucun revenu. Alors peut-être avec un petit peu d'avance pour une semaine, 15 jours, voire un mois. Mais très, très rapidement, les gens qui ne travaillaient plus, c'est comme vous. Hein, si demain, vous n'avez plus de salaire à la fin du mois, bah, tout de suite, voilà, ça va être compliqué. Donc, on a vu des situations sociales se dégrader. On nous a sollicité pour du soutien psychologique, de l'orientation sanitaire, médicale, d'urgence. On nous a sollicité pour des aides alimentaires. Enfin voilà, ça a été très très diversifié. Mais il y a eu vraiment une précarité qui s'est accrue très 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 très, très rapidement auprès de ce public-là.
Vous êtes donc en lien avec tout un tissu de partenaires par rapport au suivi psychologique, par exemple. Vous devez être en mesure, je suppose, de proposer d'autres structures qui peuvent aussi aider ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces liens et de quel type de personnel en fait vous avez auprès de vous en fait?
Alors effectivement, que ce soit dans la Marne ou dans les Ardennes, mais partout, nous, notre rôle, c'est pas de remplacer un professionnel. Si la personne qu'on rencontre n'a aucun réseau, on va l'orienter et l'accompagner et lui expliquer ce qu'il est possible de faire par rapport à sa demande et l'orienter vers un professionnel. Si elle sait pas ou elle peut pas, on peut faire pour elle. Mais dans tous les cas, nous, on va répondre à une demande en orientant vers le droit commun, s'il existe. Donc ça veut dire qu'en fait, si demain on a une demande de logement, parce que c'est quelqu'un qui est à la rue, on va solliciter les mesures de logement d'urgence par rapport au 115, ou monter un dossier de demande de logement, ou enfin voilà, si c'est le logement, ça va être ça, si c'est une demande de quelqu'un qui n'a pas de CMU par exemple, soit on va pouvoir lui faire un dossier de CMU ou lui indiquer comment le faire, ou l'orienter vers une assistante sociale de quartier. Enfin voilà, nous on est là vraiment pour faire un relais sur tous les professionnels, toutes les structures qui existent à Reims. C'est pour ça qu'on essaye aussi de se rapprocher le plus possible des structures existantes qui peuvent à un moment donné interférer dans les demandes des personnes qu'on rencontre. Voilà, on rencontre beaucoup de personnes qui dépendent de des associations caritatives et à ce moment-là, on les renvoie vers ces associations-là, des associations, le centre de dépistage, l'hôpital, le soin, enfin ça peut être beaucoup de structures différentes.
Tout ça sans jugement parce que l'activité prostitutionnelle pendant longtemps elle a été beaucoup critiquée, elle l'est encore hein, et pas sans raison. Pour les personnes qui se prostituent et qui entendraient justement ce programme, mais qui seraient plutôt fébriles en fait à avoir un lien avec des structures, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer en fait, parce que vous n'êtes pas là pour les juger au final.
Alors, on a dit tout à l'heure qu'ici, on accueillait dans la discrétion et on accueille les gens de manière non jugeante. C'est vraiment la première chose. Voilà, c'est un accueil inconditionnel, en fait, ici. On demande aucun papier d'identité. Donc, même les personnes qui pourraient être en situation irrégulière sur le territoire français, elles sont quand même accueillies. Mmh. Elles sont écoutées, elles sont orientées. Il faut savoir que les gens qui n'ont pas de papier ont aussi des droits. Ça peut être quelqu'un qui est en situation régulière, mais qui, pour une raison ou une autre, veut rester vraiment loin du jugement. Et on entend ça, effectivement, et ça doit rester discret. Nous, ici, on prend en charge la personne comme elle est. On ne demande rien. C'est un accueil inconditionnel. À tout moment, les gens peuvent venir. On leur demandera jamais ni d'où elles viennent, ni pourquoi, ni comment elles sont arrivées là. On va juste écouter leurs demandes ou juste échanger autour d'un café et on s'arrêtera.
Le CAAPP, le CAP, Centre d'accueil et d'accompagnement pour personnes prostituées, qui suit donc les travailleurs et travailleuses du sexe. Je leur ai demandé si leur service suivait parfois des travailleurs du sexe et travailleuses du sexe sur le long terme.
Alors, nous, on propose un parcours de sortie de prostitution qui est sur 2 ans, avec des renouvellements tous les 6 mois. Donc, c'est des femmes, enfin principalement des femmes, qu'on va suivre pendant 2 ans, effectivement, avec qui on va avoir des contacts très réguliers et à qui on va apporter une écoute en fonction de leurs besoins tout au long de cette période. Et parfois même, je suppose, à la sortie du parcours, on peut encore être interlocuteur si elles ont besoin.
D'accord. Donc même quand elles ont terminé leur activité de prostitution, il peut toujours y avoir des questions, il peut toujours y avoir des retours en arrière.
Mais ce qu'il y a, c'est que au fur et à mesure des années, alors c'est compliqué d'établir un lien avec les personnes. À la longue, j'ai envie de dire, il y a quand même un rapport qui s'établit avec les gens qu'on rencontre, où elles nous livrent quand même beaucoup de choses et on connaît leur histoire. Et c'est vrai que même si elles sortent du parcours, si elles sortent de l'activité prostitutionnelle, souvent on les voit encore parce que déjà on s'inquiète de savoir si elles vont bien, elles nous donnent des nouvelles, nous on les appelle, et puis bon après si elles font leur vie, elles font leur vie, mais souvent on reste un référent privilégié parce que si elles ont une question ou quoi que ce soit, elles ont toujours plus facile à nous appeler parce qu'on connaît un petit peu leur histoire et elles ont plus facile de revenir vers nous directement plutôt que d'interférer avec un autre travailleur social. Après, on accompagne des gens dans les parcours de sortie de prostitution s'ils le souhaitent, c'est à leur demande, hein, effectivement. Mais il y a des gens qu'on voit... Alors, l'association est là depuis presque 5 ans, mais les maraudes existent depuis 10 ans cette année. Et il y a des femmes, on les voit depuis 10 ans. Mes collègues qui étaient là avant moi les rencontrent toujours. Et voilà, elles sont toujours au même endroit. Elles travaillent tout le temps dans les mêmes quartiers. Et donc, elles rencontrent tout le temps l'association. Et c'est des gens qu'on voit sur le long terme. Et on a tout le temps le même rapport. Elles nous demandent toujours du matériel. On les oriente toujours vers le soin, les dépistages, les IST, etc. Voilà, c'est des gens qu'on voit depuis des années. Alors, je vais vous donner l'adresse, déjà, du local où on se trouve. Et puis, je vais vous donner le numéro de téléphone de Roxane en priorité, puisque c'est elle qui est présente essentiellement sur la Marne. Mais surtout, faut pas hésiter à nous téléphoner, nous contacter, soit pour des renseignements, soit pour du matériel. Je rappelle, tout est gratuit et anonyme chez nous. Donc, le matériel, on n'en a pas parlé, mais c'est le matériel de réduction des risques sexuels. Tout ce qui est préservatif interne, externe, les gels lubrifiants, les tampons, enfin, tout ce qui peut permettre de travailler dans des conditions safe, on le donne en quantité. Ça, c'est la personne qui me demande ce dont elle a besoin. On organise des sessions de dépistage gratuitement dans le camion, une fois par trimestre avec le CEGID, où à chaque maraude, il y a possibilité de se faire tester gratuitement. Alors, pas Covid, stop le Covid. Nous, on est là pour dépister le VIH et le VHC. Donc, il faut savoir que si vous faites un test dans notre association, toujours gratuit et anonyme, vous aurez une réponse, vos résultats, vous les aurez dans les 10 minutes. Donc, c'est des tests rapides. Voilà, ça ne retire pas d'aller au centre de dépistage, mais vous pouvez avoir une réponse rapide dans les 10 minutes. Voilà, et après, il y a, si la personne le souhaite, des possibilités d'information et d'accompagnement physique. C'est-à-dire que si quelqu'un a une urgence gynécologique, voilà, je prends un exemple, on peut l'amener vers le centre à Debré, on prend notre voiture, on amène les victimes, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Donc on peut être une solution pour les gens qui n'ont aucune ressource aussi pour les amener vers ce type de service.
Surtout que des fois, prendre un rendez-vous gynéco, ça prend pas mal de temps. Donc peut-être que passer par vous, ça permet aussi d'avoir des relais de professionnels, je veux dire.
Ah oui, alors c'est pas parce que c'est nous que ça ira plus vite, mais il y a des dispositifs qui existent pour tout un chacun, pour vous, pour moi, peu importe. Rapidement, on peut avoir un rendez-vous avec un professionnel. Alors je dis pas tous les professionnels, mais des fois, il y a des solutions et on les connaît pas forcément. Donc faut pas hésiter à nous appeler. Alors nous, on est au 5 rue de Brimontel, à Reims. Alors, je vous donne le numéro de Roxane. C'est le 06 75 15 56 01. Et le mien, donc Mandy, 06 77 92 56 63. Le Facebook, vous tapez CAP. CAP, vous trouverez tout de suite normalement un lien CAAPP.
Oh, radio primitive.
Vous en savez désormais plus sur le CAAPP, dont le local à Reims a été inauguré cette semaine. On se tourne à présent, sur Radio Primitive, vers la Maison des Femmes, qui nous fait remonter un petit peu plus loin dans cette année, avec l'ouverture de leur local dans le quartier Europe. Radio Primitive était allée leur rendre visite et rencontrer les travailleuses sociales fraîchement arrivées. Divided black white, can't be divided, can't be divided north south, we can't be divided. Alors là, on se trouve dans l'espace d'accueil, donc du coup c'est un lieu où les personnes peuvent attendre leur rendez-vous. Donc on a essayé de créer un espace assez chaleureux, assez cocooning pour que les gens puissent se sentir bien. Non, mon bureau se trouve au rez-de-chaussée, mais oui, on va avoir une porte pour maintenir la confidentialité.
Oui, c'est ce que je
veux dire. Des entretiens, après en ensemble, on a trois bureaux et puis des espaces communs où on pourra faire des ateliers.
Mais alors des ateliers?
Oui, des ateliers qui visent la reconstruction. Donc souvent, après les faits, et du coup, on fait des groupes de parole pour les femmes victimes de violences. Donc le premier a eu lieu vendredi dernier et c'est la récurrence, c'est toutes les trois semaines. Ensuite, il va y avoir des ateliers de sophrologie, donc qui visent à relier du coup l'esprit et le corps. Donc c'est Madame Potami qui va réaliser ces ateliers-là. Donc nous, on est chargé d'orienter ces personnes-là vers les ateliers pour leur apporter du bien-être.
Est-ce que quand on vient parler de son histoire, est-ce que vous avez pu le constater avec ce premier groupe, est-ce que c'est facile d'en parler devant les autres?
Non, c'est pas évident. Alors nous, on force pas la parole. Hein. On avait en plus dans ce groupe-là trois personnes qui avaient déjà participé à d'autres groupes précédemment. Mmh. Donc des anciennes qui ont pu aider les nouvelles dames à évoquer un petit peu leur histoire et où elles en sont actuellement. Quoi.
C'est parfois difficile de prendre la parole effectivement devant d'autres personnes, mais c'est aussi parfois rendu plus facile par le fait qu'on s'aperçoit que les autres ont vécu des choses similaires aux nôtres. Et du coup, c'est beaucoup moins honteux de se dire si elle l'a vécu aussi, du coup je peux oser le dire, elle me jugera pas, voilà, le fait de pas se sentir seule dans un vécu qui est parfois vécu que toujours douloureux, parfois honteux, parfois jugeant, notamment quand on parle de violence conjugale, il y a toujours un petit peu le regard des autres. Et c'est vrai que la dynamique des groupes de parole, c'est de dire que la parole des uns peut susciter la parole des autres aussi, peut libérer la parole des autres. Bon, l'idée, c'est de conserver la confidentialité d'une victimisation. Bon, avec toutes les règles d'ailleurs qu'il peut y avoir autour d'un groupe de parole où on ne doit pas raconter à l'extérieur ce qu'on a entendu dans le groupe. Et effectivement, de générer par des histoires similaires, avec au minimum un point commun, le fait qu'il y ait une reconnaissance des unes par rapport aux autres. Que le fait d'entrer dans la maison des femmes, c'est déjà se prendre en main, être actrice de sa situation et avoir envie d'avancer. Mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir un nombre de blocages encore, et que tout ce qu'on leur propose, c'est dans l'objectif de dépasser ces blocages-là.
Du coup, on a un bureau ici dédié uniquement aux intervenants de l'association Le Mars, dont moi-même qui est coordinatrice de la Maison des Femmes. Donc ici, je reçois les personnes, imprime au accueil, je fais une évaluation de leur situation, un bilan assez complet, et puis je détermine quel est leur besoin, quelle est leur demande, à quoi ils s'attendent, et du coup j'essaye de répondre au mieux à ça et de les aider du mieux que je peux. Donc je fais de l'accueil, de l'écoute et de l'orientation aussi vers les partenaires extérieurs, notamment vers les assistantes sociales, les circonscriptions départementale pour tout ce qui est volet social qui dépasse mes compétences, et j'oriente aussi vers mes collègues juristes et psychologues qui tiennent des permanences ici à la Maison des Femmes. Mmh. En fait, l'objectif c'est d'avoir un lieu unique de prise en charge pour pas que les victimes puissent aller au palais de justice, au commissariat pour le dépôt de plainte, enfin voilà, pour pas les tringler dans toute la ville et qu'elles puissent au moins avoir un soutien dans un lieu unique.
Oui, parce que quand on est une femme victime de violence, on reste une femme, donc on a des contrats précaires, on a des enfants des fois, et donc on n'a pas forcément le temps d'aller à plein de rendez-vous. Donc c'est vrai que pouvoir tout recentraliser dans un espace, c'est aussi un gain de temps pour elle, et le temps c'est très important.
C'est, à la fois c'est un gain de temps, c'est matériellement intéressant de pouvoir tout avoir au même endroit. Et c'est aussi en termes de prise en charge psychologiquement intéressant, dans le sens où ça évite que la victime se sente à nouveau parcellisée dans sa prise en charge. J'entends par là que les professionnels ont trop tendance à s'intéresser, enfin trop, c'est normal, mais à ne s'intéresser qu'au petit bout qui les intéresse, c'est-à-dire que le psychologue va s'intéresser au côté psy, le médecin généraliste va s'intéresser aux blessures physiques, hein. Le policier, il va s'intéresser à la réalité des faits, et chacun va avoir tendance à dire non mais là moi ce que je veux c'est que vous me parliez de ça, le reste c'est pas mon job, je peux rien faire pour vous. Et là la différence c'est que Anaïs, quand elle reçoit les gens, elle dit jamais ça m'intéresse pas. La totalité de la situation va l'intéresser, et à partir de ça elle va pouvoir orienter les prises en charge.
Et comment ça se passe au niveau de l'arrivée des gens? C'est des assistantes sociales, c'est des gens qui vous contactent directement via le Mars ou via directement ici, votre ligne maintenant?
Oui, en fait, on a toutes sortes d'orientations. J'ai pu rencontrer des orientations via les circonscriptions départementales, les assistantes sociales, des fois des gens même qui appellent directement la secrétaire de l'association Le Mars et qui, du coup, se chargent de me les réorienter ici où je peux, du coup, les recevoir. Ça peut être vraiment, vraiment toutes sortes. J'ai aussi des personnes qui se pointent, enfin, qui viennent ici spontanément et puis qui demandent de l'aide et qui viennent se renseigner pour commencer à entamer des démarches.
Justement, la création de cette Maison des Femmes, qu'est-ce qui l'a motivée ici à Reims? Est-ce que c'était un constat négatif sur le territoire qui a poussé à se dire on a besoin vraiment de ce type de structure et là il faut le faire urgemment, ou est-ce que c'est tout un tas d'autres facteurs en fait?
Non, c'est qu'on a quand même constaté que les violences conjugales c'était une énorme partie de notre activité en fait à l'association Le Mars, en regroupant toutes les personnes qu'on peut recevoir au siège ou au tribunal, c'est quand même une énorme partie de notre activité et du coup on a eu, enfin la directrice Madame Stani a décidé de monter ce projet là en lien avec le CHU pour pouvoir proposer aussi une prise en charge médicale.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les, pas les victimes, mais les personnes qui perpétuent ces violences?
C'est peut-être bête aussi, hein, ce que je dis, mais...
Non, c'est extraordinairement pertinent, puisque l'objectif, c'est d'éviter de créer de nouvelles victimes, même si on arrive à en sortir certaines de leurs griffes. L'objectif, c'est pas qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre et qu'ils recommencent la même chose avec d'autres. Donc, c'est extrêmement pertinent. Et ça correspond en plus très bien à ce qu'est l'association Le Mars, puisqu'on parle là de la partie aide aux victimes, mais Le Mars est une association multiservice qui a aussi un pôle insertion. Donc, dans le cadre de ce pôle, on assure aussi le suivi d'auteurs de violences conjugales, d'une part par des mesures judiciaires, de contrôle judiciaire socio-éducatif renforcé, par exemple, et aussi par l'organisation de groupes de responsabilisation pour les conjoints violents, qui sont aussi des mesures judiciaires, d'ailleurs.
J'ai vu aussi que, mis à part vos ateliers sophrologie, groupes de parole qui se mettent en place, vous vous occupez aussi des enfants, puisque des fois, il y a aussi cette question de quand on vient ici ou pour tout autre service aussi, est-ce qu'on peut venir avec ses enfants?
Oui, bien sûr. On a quand même... en fait, quand la dame est victime, on sait forcément que les enfants sont aussi impactés par la situation de violence, qu'ils soient témoins ou non. En tout cas, on les considère aujourd'hui comme victimes. Et du coup, on a Parole de Parents. Donc, c'est une association qui aide à la parentalité et qui vont intervenir ici tous les mercredis après-midi pour faire des groupes de parole pour les enfants. Donc ça commencera d'abord par des entretiens individuels pour déterminer si l'enfant est capable d'évoquer des choses en groupe et ensuite du coup l'intégration dans un groupe avec d'autres enfants qui ont eu un schéma familial assez commun. Alors pour le groupe de parole pour les femmes, c'est un groupe qui est ouvert. Alors par contre, on maximum 8 personnes. Et ensuite, après, les gens sont libres de venir et de partir. Enfin, il n'y a pas de sorte d'engagement vis-à-vis du groupe, en fait. Mmh. Elles peuvent juste faire un seul groupe et que ça ne leur convient pas, elles ne viennent plus. À ce moment-là, nous, on réintègre une autre personne à sa place. Mmh. Mais le groupe est limité à maximum 8 personnes. Et ensuite, concernant le groupe de parole des enfants, donc c'est un minimum de 4 ans. Jusqu'à à peu près 12 ans. Après, tout est adaptable, hein, bien sûr, en fonction de la situation. Et 6 enfants maximum, c'est déjà un gros.
La 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 la, Radio Primitive.
Du coup, c'est une cuisine qui va être aménagée d'ici pas très longtemps, d'ici quelques mois, où il pourra se trouver des ateliers cuisine qu'on pourra faire avec les femmes, avec les enfants ou non. Enfin, voilà, c'est pour créer des moments conviviaux, boire un café si jamais la dame doit attendre ici lorsque l'enfant est en groupe de parole, ou inversement, lorsque la dame est en rendez-vous et que du coup les enfants restent en salle d'attente, bah, on pourra en tout cas les occuper et faire des choses avec eux. Le but, c'est vraiment de créer des moments de partage et que les personnes aient envie de revenir aussi, même si c'est pas pour parler des violences conjugales, mais juste autour d'un café, voilà, pour créer du lien et du partage.
Et au niveau du quartier, Parce que c'est vrai que vous avez été implantée sur ce quartier-là. Est-ce qu'il y avait des raisons en particulier, puisqu'au final, vous faites partie d'un joli quartier, quel quartier Europe, mais qui est quand même près d'un quartier prioritaire aussi de la ville.
Bon, ça a surtout été un hasard. Ouais. C'est là où on a trouvé la maison qui convenait parfaitement à l'organisation de ce qu'on voulait.
C'est le foyer Rémois, du coup, quand Madame Stani leur a évoqué le projet de la maison des femmes et leur a chargé de nous trouver un lieu pour pouvoir exercer. Et ils nous ont proposé cette maison-là et du coup, Madame Stani a décidé que ce serait le bon.
D'accord.
Après, ce qui est important, c'est qu'on est quand même dans un quartier qui est vivant. On a une école qui se situe juste en face, qui permet le passage quand même de beaucoup de personnes. On a un coiffeur. Enfin, en tout cas, il y a certaines commodités qui sont là et qui peuvent nous amener du monde, entre guillemets.
Parmi les gens qui viennent, du coup, vous touchez que les Rémoises ou ça va au-delà de Reims? Est-ce que votre souhait, en tout cas ce serait peut-être déjà dans un premier temps de s'adresser aux Rémoises et pourquoi pas au-delà?
Oui, bien sûr, alors c'est principalement des personnes qui viennent de Reims. Après, j'ai quand même reçu des personnes qui habitent à Épernay par exemple mais travaillent sur Reims, donc en tout cas nous on s'adapte et après on décide pas dans tous les cas, donc on peut recevoir même si elles habitent pas à Reims, nous on est ouvert, hein, y a pas de...
Et on reçoit aussi des personnes qui viennent d'en dehors de Reims, mm-hmm. tout simplement parce qu'il n'y a pas près de chez elles ce type de service.
Donc les relais que vous nous avez cités, c'est donc psychologue, bien sûr, juriste. Dans les cas extrêmes où les personnes doivent être déplacées de chez elles, par exemple où elles ne veulent pas retourner au foyer, est-ce qu'il y a déjà des solutions sur Reims ?
Au niveau de la mise à l'abri, si la personne elle a décidé de quitter le domicile conjugal et de partir, mais qu'elle n'a aucune solution d'hébergement, on vérifie déjà s'il y a des personnes tierces qui pourraient éventuellement l'héberger sur quelques jours. Sinon, dans tous les cas, à Reims, on a le 115, la plateforme du SIAO qui est là pour ça. Et nous, on travaille en étroite relation avec eux sur chaque situation. Et dans la plupart des cas, on arrive quand même à trouver au moins une place en hôtel dans l'urgence pour la mise à l'abri de la personne. Quoi.
Je dirais qu'on a la chance d'être sur un département où la règle, c'est de ne jamais laisser dehors une femme victime de violence. Ce n'est pas forcément une solution idéale, évidemment, mais ne serait-ce que par la prise en charge de nuit d'hôtel, le 115 dira toujours oui à une femme victime de violence.
Donc là, au premier étage, on a un petit espace donc, dédié aux enfants. Donc là où se trouveront les groupes de parole pour les enfants ou juste être un lieu d'attente lorsque la dame est aussi en rendez-vous. Il y a des jouets, des tapis d'éveil, enfin voilà. Mm-hmm. Tout pour divertir les enfants, du coloriage, enfin voilà. on a au premier étage aussi un bureau donc dédié aux entretiens. Celui-ci est dédié aux partenaires extérieurs. Mm-hmm. Donc il est uniquement dédié au CAST, du coup, qui est une structure qui s'occupe des personnes qui ont des addictions et toxicomanes également. Et ils viennent une demi-journée toutes les deux semaines si on a des gens à leur orienter concernant l'addiction à l'alcool particulièrement, mm-hmm. puisque c'est des choses qu'on a pu rencontrer. Parce que des fois dans les foyers où il y a de la violence conjugale, il y a des fois, voilà, c'est ça, la problématique de l'alcool qui revient. Donc on a trouvé ça important et qu'elle puisse aussi trouver un professionnel ici si jamais elle a une addiction en particulier, qu'elle puisse traiter directement dans ce même lieu. Dernier étage, donc deuxième étage, on a une salle d'attente adossée à un bureau qui est destinée au volet médical. Donc en lien avec en partenariat avec le CHU, on a un gynécologue et une sage-femme et une conseillère conjugale qui devraient intervenir d'ici la fin de l'année à la Maison des Femmes pour proposer voilà, des consultations en lien avec le suivi gynécologique des femmes qui parfois n'ont pas le droit d'y avoir accès.
Ça peut prendre du temps et puis ça prend de l'énergie pour prendre le rendez-vous, pour s'y rendre, pour s'organiser, pour ne pas avoir les enfants à ce moment-là. Etc. Donc c'est vrai que le fait que ce soit dans un quartier, que ce soit peut-être plus facile d'accès, plus facile de prise de rendez-vous, ça peut aussi permettre, et puis ça peut faire moins peur aussi tout simplement.
Il y a eu aussi toute cette affaire autour du 39-19 récemment avec la peur de la fermeture de cette ligne d'urgence pour les femmes. Au final, on s'en est plutôt bien sorti puisque le numéro reste actif. Vous, quand est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça se passe au niveau des horaires, de l'ouverture de la Maison des Femmes?
La Maison des Femmes, elle est fermée le lundi matin puisqu'on est en réunion d'équipe, mais elle est ouverte à partir de 14h et jusqu'à 17h30 le lundi après-midi et tous les autres jours de la semaine de 8h30 à midi et de 14h à 17h30. Et après, moi, je suis joignable toute la journée sur ces heures d'ouverture-là, sur le numéro 03 26 89 59 34.
Une Maison des Femmes à Reims. Deuxième structure à vous être présentée aujourd'hui dans cette émission spéciale sur les initiatives féministes à Reims. Et après ce format reportage, je vous propose maintenant une interview en studio puisque nous recevions cette semaine la sociologue Sophie Divet en lien avec la projection du documentaire « Debout les femmes » à Reims. Nous revenions avec elle sur les aspects sociologiques développés par ce film documentaire signé François Ruffin, c'est-à-dire mettre en avant des femmes essentielles à notre société, ces femmes qui font le lien et vivent dans la précarité. Et en cette semaine célébrant les droits des femmes, cela nous a semblé incontournable. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Divet. Bonjour Sophie Divet, vous êtes sociologue, vous, et vous êtes notamment la fondatrice d'un axe transversal du genre. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Alors, bonjour Morgane et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs. Donc, lorsque je suis arrivée à l'Université de Reims en septembre 2012, avec des copines, collègues, nous avons dit, allez chiche, on lance un axe transversal genre ou un groupe genre, qui s'appelait à l'époque. Donc, et l'idée étant effectivement de développer ces questions sur l'Université de Reims et entre autres sur le campus Croix-Rouge.
Comment ça se passe, cet axe transversal ? C'est des réunions ? C'est des écritures d'articles ?
Alors, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe entre collègues, copines, sur concernés et intéressés par des points communs, par des centres d'intérêt communs. C'est totalement un pilotage sans chef. Et c'est des idées qui fusent et avec l'idée centrale quand même de toujours faire participer, intégrer nos étudiantes et nos étudiants dans toutes les actions qu'on peut mener, que ce soit des petits séminaires, des actions comme cet après-midi ou des moments de réflexion. Mais toujours cette implication, participation des étudiantes et étudiants.
C'est l'échange aussi des pratiques, des ressources entre vous, entre collègues ?
Oui, c'est l'échange de nos réflexions, c'est l'échange de ce qui se passe dans l'actualité et c'est aussi des confrontations, des temps de réflexion par rapport à nos terrains. Parce que nous, sociologues, notre spécificité, c'est de s'intéresser aux faits sociaux et d'aller sur place, faire du terrain, comme on dit. Donc c'est rendre compte, échanger ensemble de ce qu'on peut voir sur nos terrains de recherche.
Et c'est peut-être aussi pour cela que vous avez choisi de diffuser le documentaire « Debout les femmes » qui est signé par deux députés, François Ruffin et Gilles Perret. Et ce n'est pas anodin puisque cette projection émane d'un rapport. C'est cela, un rapport qu'avaient écrit ces députés ?
Alors, le rapport a été rédigé donc à la suite de leur mission. Je pense, je vous fais tout à fait entièrement confiance pour le mettre en ligne pour que chacun puisse le consulter. Il est très intéressant, très riche et très complet. Donc là aussi, pour les étudiants et les étudiantes, ils y trouveront plein d'informations pour y faire leurs devoirs, leurs dossiers et mémoires. Et puis le film, qui est un film donc documentaire, qui n'est pas fictif, hein, qui rencontre une réalité et qui mêle à la fois rendre compte de ce qui se passe sur le terrain pour ces personnes-là et puis d'actions de personnes politiques engagées qui veulent défendre les droits de ces personnes.
Oui, parce que c'est ça dont il est question dans Debout les femmes, c'est visibiliser le quotidien peut-être de ces femmes d'entretien, puisque ici il s'agit de femmes de ménage, c'est ça ?
Alors, cet après-midi, effectivement, nous allons faire appel à certaines de nos collègues que nous n'avons malheureusement pas souvent l'habitude de considérer comme des collègues, nous, les enseignants, mais qui sont nos collègues en tant que chargés d'entretien et qui ont gentiment accepté donc de participer, de venir voir le film. Et si elles le veulent, si elles peuvent, elles prendront la parole pour rendre compte de ce que ce film évoque par rapport à leur propre réalité.
Revenons peut-être donc sur le rapport qui a été écrit. Vous parliez tout à l'heure par François Ruffin et Gilles Perret. Ce rapport, qu'est-ce qu'il propose concrètement? On parle de 49 propositions. Vous avez dit qu'on pouvait les 42 propositions. Vous avez dit qu'on pouvait les retrouver en ligne sur la précarité. C'est cela?
Alors, ce rapport, le titre exactement, c'est Les métiers du lien. Hein, donc, ils se sont intéressés à tous ces petits métiers dans lesquels les gens sont chargés de travailler avec autrui, pour autrui, sur autrui aussi, parce que quand on est aide-soignante, on travaille sur le corps d'autrui, donc le corps est au centre de tout ça la plupart du temps. Hein. Et il a donc été remis à l'Assemblée nationale, hein, et il sera en ligne donc sur nos réseaux, et je cherche la date, mais il est tout à fait récent, vous trouverez c'est le rapport numéro 3126, voilà. Exactement 24 juin 2020.
Qui est très, très quand même récent et qui fait donc état de tous ces petits emplois, c'est ça, qui sont au final invisibles dans notre société, qui sont en plus mal considérés, c'est ce que vous disiez aussi?
Absolument. Alors je voulais juste revenir sur une petite chose que vous disiez tout à l'heure. Donc effectivement, ce film va être projeté cet après-midi donc dans l'amphi 3, les grandes coquilles du campus Croix-Rouge. Et je tiens tout particulièrement à remercier Jean-Francis Horry, qui est donc notre directeur du FR sciences économiques, sociales et de gestion, qui nous a vraiment beaucoup aidé, qui a été très à l'initiative de cette manifestation, et nous l'en remercions particulièrement.
Et on est très heureux de voir qu'il y ait des choses comme ça qui se passent aussi sur le campus.
Absolument, absolument. Alors, de quoi il va être question dans ce film cet après-midi? Eh bien, de choses très banales. Très banal, de la vie quotidienne. Il ne faut pas y venir pour voir de la science-fiction ou pour voir un film d'aventure. Hein. C'est la réalité de tous les jours. Et en fait, il s'agit donc de ces personnes qui sont dans des métiers souvent dits de femmes, parce que c'est des métiers qui sont occupés par des femmes, mais pas que, mais majoritairement par des femmes. Alors, je vous cite quelques noms de métiers. Hein. On parle souvent de dames de ménage, de femmes de ménage. Il y a aussi les dames pipi. Alors, c'est pas tout à fait officiel, mais on les appelle aussi parfois les nounous, les jeunes filles au père aussi, dont on parle parfois, les dames de service, donc ça je l'ai déjà dit, ou encore les caissières aussi. Et il fut un temps où on parlait aussi des bonnes, voire, si on remonte dans le passé, des bonnes sœurs, qui étaient celles qui s'occupaient des malades dans les hospices et les hôpitaux. Hein. Donc, depuis très, 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 très longtemps, tout ce qui touche à du travail que nous, sociologues, on appelle le sale boulot, eh bien, il est souvent pris en charge, il est souvent effectué par des femmes qui sont mal payées, qui sont peu formées, qui n'ont pas de carrière, qui ont du temps partiel, qui ont plusieurs emplois, qui sont obligées de courir à droite et à gauche en une journée pour... à la fin du mois, gagner péniblement 600, 700 euros. Et donc, en plus de tout ça, donc il y a ce côté financier qui est profondément injuste, inégal. Et il y a le côté, je dirais, valeur symbolique, le côté symbolique, c'est-à-dire que tous les jours, tout le monde passe à côté de ces personnes et ne les voit pas. Mmh. C'est des personnes invisibles. Bon, je vous citais par exemple l'exemple de l'hôpital où les aides-soignantes, les ASH, donc agents de service hospitaliers, les dames de ménage, disent souvent les médecins ou les internes passent devant nous, ils ne nous voient pas. Mais ils ne nous disent même pas bonjour, c'est qu'ils ne nous voient pas.
Alors que c'est des femmes qui sont là tous les jours auprès des médecins, quoi.
Alors, elles sont là aux côtés des médecins, et elles sont là tous les jours auprès des malades. Mmh. Et si un jour vous êtes dans un lit d'hôpital, vous verrez que les aides-soignantes sont absolument essentielles dans votre quotidien. Parce que le médecin, vous allez le voir passer en coup de vent, mais celle qui va être là de jour et de nuit, c'est elle.
Donc encore une fois, c'est des professions qui ne sont pas considérées, ne serait-ce même pas par leur père au final.
Alors, peut-être que je n'irai pas jusqu'à dire que les médecins sont les pères.
Oui, c'est vrai que c'est
parce
un petit
que ça,
peu,
je pense qu'à l'hôpital, les aides-soignantes ne seraient pas d'accord. Mais elles sont, même dans leur... Vous avez raison. Dans leur milieu professionnel, elles sont aussi oubliées. Oubliées. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme qu'utilise, entre autres, François Ruffin, hein, qui parle des essentiels. Parce que, bon, entre autres, la crise Covid hein, a bien mis en évidence que quand on retourne vraiment à ce qui est les besoins immédiats et indispensables du quotidien, eh bien, qui sont les personnes qui en assurent la possibilité ? Eh bien, ce sont elles. Hein, on a beaucoup parlé des caissières, on a parlé des aides à domicile. Parce que si les aides à domicile ou auxiliaires de vie, noms différents, hein, n'avaient pas été là, combien de personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes âgées et ou malades, et ou handicapées, ou pas forcément âgées, seraient restées toutes seules, sans aucune ressource. Et ces femmes-là eh ben, sont allées au domicile, Covid ou pas, et elles ont assuré ben, le lien social et la survie. Oui. De ces femmes, c'est-à-dire leur apporter à manger, leur donner des soins, leur donner les médicaments dont elles ont besoin tous les jours, etc., etc.
En plus d'être une présence aussi pour ces personnes qui sont parfois isolées, et c'est parfois le seul visage qu'elles voient de la journée, et c'est aussi très important ça.
Oui, alors vous avez là complètement raison, sauf que dans les faits, ça se passe difficilement comme ça. Parce que malheureusement, de la manière dont le travail est organisé, il est chronométré. Elles doivent badger quand elles arrivent à domicile. Elles ont une demi-heure, pas plus. Hein. Et elles ont une liste des tâches à effectuer. Et c'est tu laves la gazinière, tu vas faire les courses, tu fais la toilette, etc. Et dans tout ça, vous avez même des personnes âgées qui disent « Arrête, la gazinière, tu la laisses tomber, j'en ai rien à faire. Mon repas, tu me mets... Mais parle-moi, on parle. » Voilà. Et ça fait pas part... C'est dramatique. C'est-à-dire que dans la liste des tâches qu'elles ont à faire, officiellement et pour lesquelles elles vont être payées, il n'y a pas parler et écouter la personne que je vais voir.
C'est fou quand même quand on y pense. Donc elles sont essentielles, c'est ce que disait donc François Ruffin. Et pourtant ce caractère essentiel qui est beaucoup revenu en période de Covid, on l'a un peu déjà oublié, j'ai l'impression.
On risque de l'oublier vite, ouais. Oui, pour retourner dans des préoccupations bien moins importantes et beaucoup plus futiles. Mais elles restent là, elles restent tout à fait indispensables. Mais elles risquent effectivement de retourner dans l'ombre, dans l'invisibilité et presque dans ce qu'on ne veut pas voir. Parce que ce que je disais, ce dont elles s'occupent, c'est le sale boulot et le boulot sale. Mmh. Vous savez, prendre en charge une personne qui est incontinente au fond de son lit, eh bien, c'est s'occuper du corps sale, du corps vieux, du corps abîmé, du corps qui a mal. Mmh. Et puis derrière, il y a la mort. Qui n'est pas loin. Et tout ça, c'est ce que notre société bling-bling, si je puis me permettre,
ne veut pas faire voir. Oui, oui.
Ne veut même pas voir. Mm-hmm. Hein, on est dans la jeunesse, on est dans la fraîcheur, on est des... parce que je le vaux bien, hein, etc. Mm-hmm, mm-hmm. Mais la réalité quotidienne, l'intimité, le pas propre, le sale, le ce qui sent mauvais, eh ben, on ne veut pas le voir.
Mm-hmm, mm-hmm. Voilà. Et pourtant, elles sont là pour faire ce travail qui est essentiel, mais qui les précarise aussi, puisqu'au final, c'est mal gagner sa vie, c'est faire des horaires assez difficiles, et donc ça va aussi les faire se renfermer peut-être dans leurs propres conditions.
Alors là, on arrive au bout du bout de la réflexion, je dirais, même si on y aura encore des choses à dire, mais si on regarde bien finalement, ce sont des femmes pauvres, puisqu'elles ont des salaires de misère. Ce sont des femmes oubliées dans notre société. Et qui s'occupent de qui ? Ben, la plupart du temps, de gens pauvres, comme eux. Parce que les gens riches, il n'y a pas à chercher. Ils ont les moyens d'aller mettre leurs personnes âgées dans des riches cliniques à Paris ou en Suisse, etc. Donc, elles s'occupent de vulnérables et... elles-mêmes sont dans la vulnérabilité, dans la précarité, dans leur vie privée aussi. Et alors, de deux choses l'une, enfin, c'est pas aussi clivé que ça, mais soit elles ont un compagnon qui est susceptible en général de gagner plus qu'elles, parce que je vais pas rentrer dans les statistiques, on n'a pas le temps, mais on sait bien qu'en général, les hommes gagnent plus que les femmes. Donc, s'il y a famille, il y a... couple il y a et famille il y a, il se peut qu'elles soient financièrement dépendantes de leur compagnon pour élever leur famille ou pour vivre. Ou... Bon. On voit ce que ça peut donner quand on est dépendante financièrement de quelqu'un. Alors, dépendante affectivement, c'est terrible.
Oui, mais dépendante financièrement,
ça peut mener à la catastrophe. Oui. Et les violences conjugales sont très certainement, très souvent, une conséquence de tout ça. Mmh. Donc, forcément, c'est pas une source. Elles travaillent, ce sont des femmes qui travaillent à plein temps, voire plus. Ce sont les travailleuses pauvres. Mmh. Et qu'on met dans des situations de... éventuellement dépendance par rapport à un compagnon qui gagne, attention, pas une richesse formidable, mais un tout petit peu plus qu'elle. Mmh. Ou bien elles sont seules. Et ça fait partie de ce qu'on appelle malencontreusement les familles monoparentales qui sont à plus de 90% composées de femmes seules. Et là, elles connaissent la galère. Alors, elles ne sont pas dans la dépendance d'un conjoint, mais elles se débrouillent toutes seules avec leurs enfants, avec
quelques aides qu'elles peuvent grappiller par-ci par-là. On est dépendant aussi de l'État, on est dépendant de tout dans ces cas-là. Et c'est une autre forme de dépendance, mais on est quand même dans la soumission, quoi.
C'est une forme d'assistance, effectivement. Alors, c'est très, 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 très bien que ces droits sociaux existent.
Bien sûr.
Bien évidemment, mais ça ne leur permet pas, effectivement, d'être une citoyenne à part entière et de dire « j'ai un salaire correct ». Qui me permet de vivre comme je le veux dans ma société, dans la société dans laquelle je fais partie, et de pouvoir être une citoyenne à part entière. Voilà, ça c'est pas possible.
Merci beaucoup Sophie Divet de nous avoir parlé de cette projection qui aura donc lieu aujourd'hui à 16h sur le campus Croix-Rouge à Reims. On rappelle que l'entrée est libre, il vous suffit de vous rendre sur le campus, c'est accessible en tram, en bus, à pied, que sais-je.
Et Amphi 3, sous les campus.
Amphi 3, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Sophie Divet, vous avez un autre rendez-vous qui arrivera le 17 mars aussi, où les auditeurs et auditrices ne seront peut-être pas aussi conviés. C'est pas vraiment une entrée libre, mais vous pouvez quand même nous en parler.
Oui, donc toujours dans ce souci de faire... toujours impliquer nos étudiants dans le cadre de nos actions. Donc le 17 mars, nous organisons dans le cadre de la licence professionnelle intervention sociale que je pilote, un petit séminaire qui est consacré aux droits des femmes. Donc le matin, ce seront des personnes du CIDFF de Châlons, sur Marne, en Champagne, pardon, qui interviendront. Et l'après-midi, ce seront des militantes Famille Michelon, je ne me trompe pas, Fanny,
oui.
Michelon,
oui, tout à
du
fait.
Planning familial, qui interviendra. Le matin, ce sera entre autres Chloé et Boucher. Et le thème sera autour du droit des femmes et un thème évidemment ô combien central pour la liberté des femmes et la liberté de disposer de leur corps. C'est autour de la question de l'avortement, de l'IVG. Bon, on sait qu'en ce moment, il y a des petites lois là, qui sont en train de passer. Et on va aborder donc cette question d'avortement, IVG, droit des femmes.
Encore Radio Primitive ?
Pour terminer cette émission spéciale autour des diverses formes de féminisme local, je vous propose de conclure avec Francine et son émission À quoi ça rime ? Francine réalise ses émissions dans les studios de Radio Primitive et elle revient ici sur l'histoire de sa famille et son histoire de femme. Un témoignage ici plus personnel, mais qui ne manquera pas de faire écho à l'histoire de beaucoup de femmes.
Tous égaux, hommes et femmes. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette chronique « À quoi ça rime ?» intitulée « Tous égaux ». 8 mars, journée mondiale des droits des femmes. Mais jusque quand va-t-on la célébrer ? Rappeler au monde entier que la femme a des droits et entend bénéficier d'une égalité pleine et entière, car elle est un être humain, tout simplement. Féminisme, philosophie, ensemble des idées et mesures qui visent à abolir les inégalités entre hommes et femmes. En 2022, le chemin reste long et semé d'obstacles. Bien sûr, chez nous, il n'y a pas la guerre. Nous sommes libres. Mais si je pense aux femmes talibanes, ces mortes vivantes emprisonnées sous le niqab, si je pense à toutes ces guerres où le viol des femmes est une arme de guerre, si je pense aux femmes d'Ukraine qui fuient le pays avec leurs enfants, laissant les maris sur place pour défendre leur patrie, je pense aussi à celles qui se taisent, ici, près de chez nous, en France, car elles ont peur d'être quittées et préfèrent parfois être bafouées que seules, abandonnées, avec souvent la charge d'enfants à élever. Il faut du cran, il faut du courage pour aller vers la liberté. Plus d'une femme y a laissé la vie. Les médias s'en font souvent l'écho avec ce mot, féminicide, entré dans notre vocabulaire quotidien. Mais au-delà de la journée du droit des femmes, je voudrais parler du respect dû à l'individu qu'est une femme, une fille, une mère, une sœur, du respect dû à un individu qu'est un enfant, du respect dû à un individu qu'est un homme, un garçon. Nous sommes tous si loin du compte, avec les tragédies liées au fanatisme, au travail des enfants, aux violences physiques, sexuelles, psychologiques, aux violences liées à l'alcoolisme, aux violences faites aux êtres humains au nom du profit. La violence est l'ennemi de la femme, la violence est l'ennemi du genre humain, et malheureusement, leur histoire est liée, trop liée, irrémédiablement liée, jusque quand ? J'adresse une demande au futur président ou présidente de la République. Que cessent les féminicides ? C'est urgentissime, c'est insupportable que des femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Une femme, c'est comme un homme. Elle a le droit à la vie, nul ne peut lui ôter. Une fillette est aussi importante qu'un petit garçon. Aucune violence ne doit lui être faite, c'est intolérable. Moins dramatiquement, certes, on se bat encore et toujours pour l'égalité salariale, pour la répartition des corvées domestiques quotidiennes. Nous devons tous être respectés et nous respecter les uns les autres. Le principe posé semble si simple, d'une simplicité enfantine et pourtant, il relève de l'utopie. Quand on me parle de conditions féminines, ce qui me vient tout de suite à l'esprit concerne le corps de la femme, ce domaine sur lequel personne ne doit transiger. La femme est libre de disposer de son corps, elle ne doit pas subir d'intrusions non consenties, et c'est elle plus que quiconque qui doit décider de laisser pousser la vie dans son ventre ou pas. Je frémis quand j'apprends que le droit à l'avortement recule même en Europe. J'ai 65 ans. Je ne suis ni jeune ni complètement vieille. Voilà ce que je peux dire à propos du statut de la femme dans ma famille. Je suis issue d'une famille ouvrière standard, une famille qui se fond totalement dans le paysage français du XXe siècle, une famille qui a commencé à entamer le XXIe siècle. Je vais illustrer mes propos par trois anecdotes concernant trois générations de femmes, ma grand-mère, ma mère et moi. Dans les années avant-guerre, et même encore après, les hommes étaient habitués à aller au bistrot en sortant du travail. Ma grand-mère maternelle attendait souvent le retour de son homme dans un pauvre logis avec ses quatre enfants. Mon grand-père avait tendance à forcer un peu sur le petit ballon de vin. C'était fréquent. Un jour, ma grand-mère a osé s'avancer jusqu'au bistrot pour demander à mon grand-père de rentrer à la maison. Quelle impudence ! Il n'a rien dit, l'a suivie, et une fois arrivé à la maison, lui a administré une correction devant les enfants, lui cassant des dents, et lui intimant l'ordre de ne jamais revenir le chercher au bistrot. Elle était habituée à recevoir des coups. C'est triste, et j'ai eu connaissance de ce bien lamentable épisode il y a seulement quelques années. À ce propos, j'ai entendu ma mère me dire « C'était comme ça, les femmes étaient souvent battues, on ne se posait pas de questions, on était gosses. C'était comme une fille à l'école qui était obligée de coucher avec son père. On était habitué à entendre ce genre de choses. Pour nous, c'était normal, on ne faisait pas attention. » Je reste encore interloquée par ces propos. Parlons un peu de ma mère qui, elle aussi, a porté parfois sa croix et qui pourtant m'a transmis cette philosophie du servage. Si elle me disait que je devais être indépendante financièrement, elle ne manquait pas de marteler « Si tu veux mari blotti, soigne le lit et le rôti. » Nous étions une fratrie de trois enfants à la maison. Je suis l'aînée et mon père a été fort déçu de ma naissance car il voulait un garçon. Quelques années plus tard, ma mère, de nouveau enceinte, dut supporter l'affront pendant toute sa grossesse. mon père ne lui adressa quasiment pas la parole pendant toute la durée de sa grossesse. Il lui en voulait d'être enceinte, c'est incroyable, et avait peur d'avoir encore une fille. Mais Dieu merci, ce fut un garçon, et mon père fut tellement content qu'il en oublia qu'il était déjà père d'une fille. Mais ceci est une autre histoire. Donc, on voit bien que la colère, la violence physique ou psychologique, le manque de respect ont accompagné le quotidien de ces deux femmes, comme si ce mépris était une norme, comme s'il était la norme. Mon père très âgé a subi une grosse opération il y a 4 ans. Ma mère étant quasiment impotente, je suis allée l'assister pendant une semaine, assurant toutes les tâches ménagères et les allers-retours pour la conduire au chevet de mon père à l'hôpital. Et voilà le clou de l'histoire. Étant à la maison chez elle, je n'étais donc pas chez moi avec mon mari. Elle se sentit obligée de le dédommager par l'achat d'une caisse de bon vin pour le remercier de lui avoir mis à disposition sa femme, m'assimilant ainsi à un robot ménager. Je n'ai rien dit, elle n'aurait pas compris. Sans penser faire mal, ma mère me considérait davantage comme un soutien domestique, une sorte d'ustensile. Alors on me dira « Oui, mais tout ça, c'était l'époque. » Je réponds « Peut-être. Mais c'est surtout une histoire de mentalité qui ne peut être forgée que par l'éducation donnée, reçue dès le plus jeune âge. Et si on ne martèle pas dans les esprits qu'une femme est l'égale d'un homme, ça ne changera jamais. » Contrairement à mon frère, je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai intégré une section un peu fourre-tout pour une formation en secrétariat. Je voulais faire de la décoration et j'ai entendu mon père dire à ma mère « Ce n'est pas la peine de se casser la tête pour elle, elle se mariera. » Donc, mon avenir était tracé dans la servitude. Mon épanouissement personnel était le cadet de ses soucis et je n'ai pas voulu cela pour mes enfants. J'ai été mère de 2 garçons, je le suis toujours d'ailleurs, avec bonheur. Je m'étais fixé l'objectif de tout faire pour qu'ils puissent chacun choisir son métier. Le but a été atteint, mais j'ai sacrifié ma vie pour servir ma famille et j'ai toujours eu le sentiment que servir était inscrit en moi. On me l'a inculqué dès mon plus jeune âge. Il n'y a jamais eu d'égalité des sexes à tous les niveaux de ma famille. Les femmes ont subi et servi les hommes. Ni égalité, ni reconnaissance pour tout un quotidien assuré pendant des décennies et pour lequel personne ne prêtait attention. Me plaindre, c'était bien inutile. Il m'a été dit que c'est moi qui m'étais fondue dans ce rôle de servitude. Mais on ne m'a jamais appris à me divertir. On ne m'a jamais appris à rêvasser. J'entends à la radio qu'un projet de loi vise à allonger le congé parental d'accueil du jeune enfant. Je dis bravo. Mais je voudrais que ce congé soit suffisamment rémunéré et qu'il soit obligatoirement partagé entre les 2 parents. Ce congé ferait prendre la mesure de l'ampleur du travail accompli chaque jour par des millions de femmes. Il montrerait au papa que la gestion des tâches domestiques, la préparation des repas, l'entretien de la maison, du linge, le suivi, l'éducation des enfants au quotidien relèvent d'une organisation digne d'une petite entreprise. Et chaque jour, sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Un jour, tout s'arrête, fini les pros. Ma petite fille n'a que 2 ans. Je lui dédie ce texte. Ô ma Juliette, mon enfant chéri, je forme le souhait le plus fort que tu puisses suivre le chemin que tu auras choisi, que tu puisses être aimée et aimée sans avoir à craindre de qui que ce soit, pour quoi que ce soit, que tu puisses mener une vie heureuse, honnête, dans l'amour et la dignité, que tu puisses transmettre ces valeurs de respect et de liberté aux enfants qui pousseront dans ton ventre. Voilà ce que je voulais dire. Féministe acharnée, je ne le suis pas, ne l'ai jamais été, car j'ai été forgée pour être à la disposition de ma famille, renonçant à mes envies. Dans l'enfance et l'adolescence, j'ai servi mon père, mes parents, mes petits frères. Puis, dans le mariage, j'ai servi mon mari et mes enfants. J'aime ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai pleine conscience de cela et je prends des petites parcelles de liberté que je cultive à travers l'écriture, la lecture. Ce sont des petites parcelles de rattrapage sur la vie. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez m'entendre sur les ondes de Radio Primitive. J'espère appartenir à la dernière génération de femmes sacrifiées. Je termine mon texte sur une note joyeuse. Je veux remercier une femme qui se prénomme Morgane et qui chaque mois m'accueille dans le studio de Radio Primitive avec un beau sourire et des yeux pétillants de joie. Donc merci à Morgane et vive les femmes! Je vous quitte sur ces paroles. Je vous dis au mois prochain sur Radio Primitive. Portez-vous bien. À bientôt.
Cette émission spéciale sur les luttes pour les droits des femmes s'achève. Mais vous l'aurez bien compris à travers les reportages et interviews que nous venons d'écouter, la lutte n'est pas terminée. Alors vive les initiatives locales et féministes, y compris sur vos ondes radiophoniques.